Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le Programme. Les rencontres d'Edmond Morel.
Vous êtes le directeur du Théâtre du Parc. Merci de nous accueillir dans votre bureau au moment où vous allez bientôt jouer La Folle de Chaillot, que vous ne mettez pas en scène. Donc on va dire quelques mots sur la pièce. Oui. On interviewera Jean-Claude Idée pour qu'il en parle davantage. Alors cette pièce, La Folle de Chaillot, c'est quoi? C'est une pièce de 1945, mais qui aurait pu être écrite aujourd'hui.
C'est une pièce aujourd'hui, c'est peut-être un peu court, mais hier en tout cas, oui. Je veux dire par là que... À la relecture, quand on a envisagé ce projet que Jean-Claude m'a apporté, je me suis dit, mais enfin, c'est quand même un vieux machin. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'actuel là-dedans? Je ne me souvenais pas très bien, pour être franc. Et puis, j'ai relu, mais j'étais absolument sidéré. On parle de l'écologie mise en danger, de la planète qui va se frayer un chemin en dehors des centres de gravité, si on continue comme ça, du fait que le profit passe avant tout et que les banquiers et un certain nombre de gens dans la finance s'en foutent pas mal de ruiner toute la planète du moment qu'ils arrivent à leur fin dans un avenir rapproché. Alors c'est absolument hallucinant. Quand on lit ça l'an dernier, un peu, enfin mettons il y a un an et demi, de toute façon on savait déjà beaucoup de ce genre de choses, mais ça s'est tellement confirmé qu'il n'y avait plus de doute possible sur l'urgence de monter une pièce de 1945, voilà.
Il y a un an et demi, il n'y avait peut-être pas les banquiers qui ont joué depuis lors un rôle particulier.
On ne le savait pas encore. Je n'étais pas encore mis au courant. Moi, je suis rarement prévenu le premier de ces choses-là. Oui.
Vous n'étiez pas initié. Donc. Non. Alors justement, vous dites que lorsque Jean-Claude Idée vous a proposé la pièce, vous étiez un peu dubitatif. Comment se passe le choix maintenant? Parlons de votre métier de directeur de théâtre. Comment se passe la programmation d'un théâtre comme le Théâtre du Parc?
Voilà un cas de figure. Un metteur en scène m'apporte un projet et me dit « qu'est-ce que tu penses de faire ça dans un an et demi, parce que c'est toujours quand même avec un peu d'avance, dans un an et demi, dans deux ans. Et puis alors évidemment, j'examine, je lis ou je relis la pièce, La Folle de Chaillot, j'avais quand même lu quelques fois déjà dans ma vie.
Vous aviez joué déjà
Je n'ai pas joué dedans, jamais, non. Non, et je me demande même si j'ai jamais joué un Giraudoux. Mais enfin, je vais pas commencer à faire de l'introspection. Ça risque d'être un peu long.
Non, si vous l'aviez joué, je vous aurais interrogé sur la mémoire de l'acteur par rapport à des pièces qu'il a jouées.
Il y a des choses que j'ai reprises, par exemple. Une petite anecdote au passage. Eh bien, pour le 50e anniversaire du Théâtre des Galeries, mon distingué collègue David Michels m'a dit « Est-ce que tu serais d'accord de rejouer, on va le reprendre évidemment, c'est un des triomphes de la maison, Le mariage de Mademoiselle Beulemans, est-ce que tu serais d'accord de jouer le rôle du père Delpierre ?» J'ai dit « Mais tu es fou, j'ai toujours joué le fils. » Et pendant un millième de seconde, il s'est dit « Ça y est, ça ne va plus. » Il me connaît, alors ça s'est vite arrangé, pour la rassurer.
Et ça a été le rôle du père, vous voyez le fils...
Oui, bien sûr, j'avais toujours, effectivement, c'est le rôle que j'ai le plus joué dans ma carrière, c'est le rôle du fils. Et alors ça revient, même si je n'avais pas joué le père, je l'avais quand même toujours entendu. Bon, et vous savez, on a toujours le son, ça reste. J'ai eu plusieurs reprises, puisqu'on parlait de la mémoire, de cette pièce-là, et je me souviens d'avoir fait cette expérience-ci, on ne l'avait pas joué pendant, je ne sais pas, 7 ou 8 ans, et puis je suis arrivé, tout à fait à l'aise, franc comme Baptiste, en me disant, bon, ben ça va, je le sais, j'ai déjà joué 150 fois, pendant 3 jours, je me suis dit, mais je ne sais plus rien, et puis presque par une, je ne sais pas, je ne vais pas parler de miracle, peut-être un peu léger pour parler de miracle, mais tout à coup, je me suis dit, mais ça va, bon, tout est revenu. Un peu comme une langue étrangère qu'on n'a plus parlé depuis longtemps, et puis après 3 jours, on la retrouve, quoi. Enfin, on retrouve en tout cas beaucoup.
Alors, revenons à la programmation, donc en prenant le cas de figure de La Folle de Chaillot. Jean-Claude Idée vient vous voir.
Il vient me voir, je dis, mais c'est fabuleux, c'est exactement, c'est ce qu'on cherche. En plus, on cherche dans la tonalité générale de la saison, parce que moi, je suis garant de ça, une tonalité amusante à cette époque-là. C'est quand même, on va la jouer notamment au réveillon de l'an. Et le côté comique est beaucoup plus important que ce qu'on pense en pensant Giraudoux a priori. Voilà. Et le côté social, alors, est d'une dureté, et la critique de notre capitalisme, qui a ses avantages. Moi, je ne suis pas un dangereux maniaque, mais il y a quand même aussi quelques défauts. Hein. Et là, ils sont mis en valeur, je peux vous dire, par un homme dont on sait l'expérience personnelle. Il a quand même été ministre. Hein. Bon, il a connu tous les conseils de ministres, il a connu les négociations, y compris sur les budgets dans les ministères et dans les conseils de ministres. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui sait de quoi il cause.
On était aussi dans une période très, très particulière, parce que la pièce a été écrite en 1944. Oui. Giraudoux ne l'a jamais vu jouer.
Oui, il l'avait commencé avant, hein. Il l'avait commencé avant, pendant la guerre, donc il n'aurait pas pu la sortir, d'ailleurs, à mon avis. Mais en 1945, là, il avait des raisons de penser que ce serait possible.
Alors, on revient à votre rôle de directeur. Oui. Donc, vous avez, à ce moment-là, décidé que la pièce pouvait être programmée. Mmh. Vous citez le calendrier en disant qu'elle sera jouée en fait de fin d'année. Mmh. Ça veut dire que ça demande aussi une exigence particulière dans le choix.
Oui, il y a d'abord, vous savez, si on parle de la direction, il y a des tas de choses, hein, je ne suis pas en train de pleurer, mais d'abord il faut faire le calendrier, il ne faut pas le faire n'importe comment, je veux dire qu'il faut de préférence pas mettre un spectacle qui va s'adresser beaucoup aux scolaires pendant les vacances de Pâques, hein. Je prends un exemple extrême exprès, mais enfin c'est tout le temps, c'est avec tous les congés scolaires qu'il faut en tenir compte, et c'est d'ailleurs la raison par laquelle il n'y a pratiquement que la compagnie du Théâtre du Parc qui se présente au Théâtre du Parc, parce que les meilleures dates sont prises. Moi, je les prends pour le calendrier du Parc, évidemment. Je ne vais pas dire, on va jouer à des dates moins intéressantes où il y aura moins de monde. Comme ça, je pourrais louer la salle à quelqu'un d'autre. Ce serait quand même un peu stupide. Et ce n'est pas ma fonction. Bon.
Oui, c'est vrai que vous avez aussi une obligation morale, ou je ne sais pas si elle est contractuelle, d'ailleurs, d'une programmation qui peut intéresser les écoles. Parce que vous avez un public scolaire, d'abonnement scolaire.
Mmh. Ça fait partie du contrat programme tripartite, dans le cas du Parc, entre la communauté, la ville et le Parc. C'est un des rares tripartites. Hein. Les autres, c'est généralement l'association, la SBL ou l'établissement d'utilité publique qui signe un contrat avec la communauté française. Ici, la partie la plus importante de la subvention venant de la ville, c'est évidemment la ville qui est mon principal interlocuteur en amont, je veux dire.
Alors, quel est le moment dans la vie professionnelle d'un Yves Larecque, directeur de théâtre, mais aussi comédien? Quel est le moment le plus agréable ou le plus festif dans une programmation de théâtre? C'est la première? C'est la première répétition?
C'est très difficile à dire, mais ça peut être tous les cas que vous avez cités. Ça peut être la première répétition parce qu'on se rend compte qu'on part vers un truc qui peut être fabuleux, tout en sachant bien que c'est pas encore arrivé. Bon, parce qu'il y a quand même à ce moment-là encore un mois et demi de répétition et tout peut se produire entre-temps. Et puis ça peut être aussi, par exemple, le dernier spectacle qu'on a eu ici, Le Capitaine Fracasse. Eh bien, je peux vous dire que j'avais les larmes aux yeux au rappel pratiquement tous les soirs. Quand j'étais là, bien entendu.
Oui, c'est ça. Alors, le capitaine Fracasse est aussi un exemple intéressant parce que la pièce est une adaptation originale. Mmh. Est-ce qu'elle est par Thierry Debroux? Est-ce qu'elle a été faite à votre demande ou est-ce que c'est à nouveau lui qui est venu?
Là, il m'a dit « J'aimerais bien adapter un roman et qu'est-ce que tu penserais d'un cap et d'épée ?» J'ai pensé vaguement, moi, m'a-t-il dit, sans aller plus loin au départ, dans la première conversation, au capitaine Fracasse. Et alors, il y a cette anecdote où je lui ai dit « Écoute, le capitaine Fracasse, je ne peux pas te dire non. J'ai été renvoyé chez les jésuites parce que je le disais qu'il était à l'index. » J'ai un peu exagéré les doses, hein. Mais enfin bon, mais c'était quand même à l'index. Je n'ai toujours pas compris pourquoi à mon âge maintenant, mais enfin bon, ça n'est pas grave.
Donc c'est aussi un argument pour
plaider. C'est sentimental, c'est un peu de la plaisanterie, hein. Peut-être que les Trois Mousquetaires auraient été tout aussi bienvenus ou que sais-je, bon.
Et alors, le fait que cette pièce-là ait un tel succès, vous dites que ça vous a ému chaque fois que vous étiez venu. Pourquoi cette émotion-là particulière ?
C'est pas seulement le succès, le fait qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle. C'est le fait que je trouvais que les interprètes étaient tous formidables. Et dans des genres différents, il y en avait où tout à coup on a découvert que c'était presque des escrimeurs professionnels. En fait, ils ont beaucoup travaillé pour ça, ça vient pas tout seul. Hein. Bon. Et puis il y en a un autre qui est en Commedia dell'arte, qui jouait Scapin. Donc je vais pas commencer à citer des noms, sinon j'en citer, je crois que c'est 14. Bon, mais tous, je trouvais qu'ils avaient des moments fabuleux. Et ça, c'est très émouvant, évidemment.
C'est vrai que ce sont des moments de grâce dans le théâtre qui n'arrivent pas nécessairement tout le temps. Et est-ce qu'il y a, par contre, à l'inverse, sans citer de pièces en particulier, mais des circonstances qui font que vous vous dites « là, je me suis trompé » ou bien « là,
Oui, bien sûr que ça arrive. J'ai un ou deux souvenirs comme ça. Peut-être que c'est parce que je suis d'un naturel optimiste que je n'en ai que deux. Mais j'ai quand même des souvenirs de pièces où je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Ça peut être sur le choix de la pièce elle-même. Ça peut être sur le moment où on la place dans la saison. Il y a tout ça. Hein. Ça peut être sur le choix de certains interprètes. J'engage le metteur en scène et nous bavardons de la distribution ensemble, faisant plus que bavarder. Bon, dans certains cas, c'est même pas toujours simple. Mais ceci dit, les sources d'erreurs sont multiples. Donc si quelque chose ne fonctionne pas, c'est fatalement toujours quelque part un peu ma faute. Et ça, c'est quand même un peu embêtant.
Et est-ce
ça s'appelle avoir des responsabilités.
Oui, voilà.
C'est vrai dans tous les métiers, bon.
Oui, bien sûr. Mais enfin, c'est-à-dire que les choix que vous êtes appelé à faire en tant que directeur d'un théâtre sont quand même beaucoup plus aléatoires et liés à une part de subjectif que dans d'autres métiers.
Il y a une réplique extraordinaire de Louis Jouvet qui est à peu près ceci. Le théâtre obéit à des lois immuables. Mais personne ne les connaît.
Ah oui, c'est une très belle formule.
C'est beau, non ? Et je crois que c'est vraiment ça. Bon, bah, écoutez, franchement, moi j'ai souvent dit, à ma façon, un peu dans le même esprit, j'ai souvent dit, écoutez, si j'avais la recette pour choisir toujours la bonne pièce au bon moment, je vous jure que je serais extrêmement riche parce que je l'aurais revendue aussi. Hein, bon.
Oui, bien sûr. Oui, non, ça c'est une recette qui aurait eu beaucoup...
J'aurais de la clientèle, je vous le jure.
Alors, revenons encore dans votre bureau directeur de théâtre. Vous êtes le directeur d'un théâtre, mais vous êtes aussi comédien. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites j'en ai assez d'être directeur, j'ai envie de remonter sur les planches, c'est vraiment les planches mon métier ?
Non. Je vais être très franc, il est un peu tard pour ça. C'est pas inscrit, ça va d'ailleurs paraître dans la presse. Je suis en fin de dernier mandat. Et puis enfin, je suis plus vraiment gamin. Et j'ai énormément joué. Énorme. Je ne vais pas dire que j'en ai marre de jouer. Ce ne serait pas vrai. D'abord, je ne jouerai pas dans la prochaine. Ce que je fais rarement. Hein. Depuis que je suis directeur, j'ai peut-être joué 5 fois en 22 ans. Ce n'est quand même pas énorme. On ne peut pas dire que je me suis beaucoup servi.
Et pourquoi est-ce que vous avez cette fois-ci choisi de jouer ?
Parce que je trouvais à la lecture que ce rôle était exactement un style de personnage qui devait normalement me coller comme acteur, heureusement, pas comme être humain. J'espère.
Et vous êtes quoi ? Vous êtes un des banquiers, un des hommes d'affaires ?
C'est ça, un banquier absolument sans scrupules, prêt à massacrer n'importe qui, mais vraiment une ordure, quoi. Bon. Et ça, c'est assez amusant à faire.
C'est un rôle de composition.
Oui, espérons-le, oui, ça vaudrait mieux pour tout le monde.
Oui, alors donc, j'ai oublié ma question. Ma question était, est-ce que donc vous n'avez pas, à partir du moment où vous avez choisi de devenir directeur de théâtre, l'envie de jouer n'est plus aussi présente ?
Je vais répondre à ça très exactement dans mon cas, ce qu'on ne peut jamais répondre que pour soi, dans ce genre de questions. J'ai énormément joué. Mais vraiment énormément. Vous savez, il y a eu une époque où j'étais pensionnaire des galeries. À ce moment-là, si vous étiez pensionnaire des galeries, vous jouiez entre 12 et 16 rôles différents par saison. Et parfois des rôles importants. Donc c'était quand même assez harassant. Hein. J'ai joué énormément. Et puis de là, j'avais un peu joué ici, au parc. C'est ici que j'ai débuté en réalité, mais dans de toutes petites choses. Et puis, donc je suis passé quelques années aux galeries. Et puis je suis allé au National où j'ai joué. On jouait moins de rôles, mais on les jouait plus longtemps, puisqu'il y avait chaque fois une tournée plus une série à Bruxelles. Donc ça faisait 40-50 représentations pour chaque pièce, alors que jusque-là, je jouais 20 fois, ça, tout allait bien. Bon, sauf je voulais Libelmans. Et puis j'ai créé le service animation du Théâtre National. J'étais assez intéressé par la problématique, les jeunes dans une salle, mais pourquoi est-ce qu'ils chahutent comme des veaux ? Bon, pourquoi est-ce qu'ils font n'importe quoi ? Et puis je me suis dit, ben, je vais aller leur demander. Et avec l'imprimatur, si je puis dire, de Jacques Haussmann, j'ai créé, je vous passe le détail, un service d'animation dans les écoles. Et ça m'a pris, ça s'est développé d'une manière absolument insensée. On a commencé par faire, je ne sais plus moi, 20 séances d'essais. Et puis 2 ans après, on était à 400-500 séances par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y avait un dispatching, enfin, ça avait un machin. C'était presque un deuxième théâtre, quoi. Hein. Bon, il y a des théâtres qui en font moins actuellement que 400 séances scolaires, quoi. Bon. Et donc là, fatalement, j'ai joué moins. Et puis j'ai créé, à côté de ces séances, j'ai repris, si vous voulez, l'idée de ce qui était la tournée du National avant qu'il ne s'appelle le Théâtre National, quand c'était les comédiens routiers, c'est-à-dire des petites localités, mais... Là, je fais l'amalgame. Animation préalable, discussion après le spectacle avec les gens qui voulaient bien rester dans la salle. Et donc, on passait 2 jours dans chaque petite localité, quoi. C'était un travail tout à fait passionnant. Là, je jouais aussi, bien entendu, puisque j'étais là. Hein, économie, Horatio, comme on dit dans Hamlet, etc. Bon. Et puis, donc, j'ai continué à jouer, mais moins. Et j'ai joué de moins en moins. Et puis j'ai été appelé, parce que je n'avais rien demandé, j'ai été appelé à des fonctions de direction à Liège. Et comme je suis liégeois, j'ai foncé. Bon, je ne suis pas sûr que j'ai eu raison, mais j'ai foncé. Et puis ça s'est terminé à Liège, et puis je suis rentré au National, où j'étais dans l'administration plutôt alors, comme administrateur des tournées, ce que j'avais déjà fait, puisque j'avais créé une nouvelle tournée, recréé une tournée. Et puis j'ai présenté ma candidature ici, j'ai été élu, puisque c'est une élection, et puis voilà. Donc, vous savez, c'est quand même absorbant, il y a beaucoup de choses, hein. Encore une fois, je ne vais pas pleurer, hein, personne ne m'a obligé. Mais ceci dit, y a beaucoup de choses à faire. Hein, et des répétitions, c'est quand même beaucoup de temps. Hein. J'ai encore fait une mise en scène l'an dernier. Je dis encore, j'en ai fait, je crois, 4 aussi. Pas beaucoup plus, parce que là non plus, je ne me suis pas vraiment servi. Et bien, je peux vous dire que ce n'est pas par hasard que j'ai monté la pièce qui venait en premier lieu. Parce qu'évidemment, en août-septembre, on est quand même un peu plus sur le velours qu'à d'autres moments de l'année, puisqu'on est en train de lancer la nouvelle, mais le travail a déjà été fait précédemment. Donc ça va, quoi. Mais encore que, hein, si je suis 2 services par jour sur le plateau ou dans la salle, c'est absolument évident que je n'ai plus beaucoup de temps pour l'administration. Et heureusement que j'ai une des collaboratrices ici, je dis triste parce que je travaille qu'avec des femmes dans l'administration, ce qui n'est pas une doctrine, hein, bon. Mais enfin, c'est comme ça.
J'entends que vous avez aussi, que vous avez beaucoup été préoccupé par l'aspect ouvrir le théâtre aux jeunes publics. Comment le percevez-vous aujourd'hui, ce jeune public, par rapport au théâtre ?
Alors, je vais vous dire une chose qui va... On a tendance... à dire un peu du mal des enseignants. Enfin, j'entends ça souvent et ça me fait de la peine, parce que peut-être qu'il y en a qui le méritent. Mais moi, je peux vous dire que ceux qui amènent leurs gosses ici, enfin leurs gosses, on se comprend, c'est quand même plus des bébés, ici au spectacle et qui ont préparé le spectacle, et parfois nous allons dans les écoles préparer avec eux. Bon, c'est des gens dont j'admire vraiment la manière de travailler, parce que quand on me raconte qu'ils font 22 heures, j'ai envie de frapper, hein.
Oui, c'est... Mais comment voyez-vous la perception que les jeunes aujourd'hui, qui sont par ailleurs confrontés aux jeux vidéo, à la télévision, au rythme des séries, au rythme de l'audiovisuel, un rythme très différent de celui du théâtre, comment voyez-vous la manière de leur faire comprendre ce qui est spécifique et ce qui est unique dans le spectacle de théâtre ?
En général, il suffit d'en parler... Et d'en parler sans se prendre pour une espèce de nombril du monde qui possède toutes les qualités, toutes les connaissances, et qui par conséquent aurait l'air supérieur, ce qui est déjà une mauvaise façon d'aborder la conversation. Oui, c'est aussi bête que ça. Hein. Bon, et ce n'est pas si compliqué que ça n'en a l'air, mais encore faut-il qu'il soit dans un terreau... Ne fût-ce que le scolaire, hein. Je ne dis pas nécessairement qu'il faut en plus que la famille ait été au théâtre depuis 50 ans, etc., etc. Mais je crois que ce n'est pas aussi effrayant qu'on le pense. Et moi, j'ai des souvenirs de séances d'animation dans des écoles techniques où j'étais moi-même, j'avais un léger a priori, hein, comme n'importe quel imbécile qui ne sait pas où il va. Bon, et j'ai souvent été frappé. On n'avait pas le même genre de questions. Hein. C'était pas, mais qu'est-ce que vous pensez de la recherche de l'absolu chez machin ? Bon, c'était combien est-ce que vous gagnez par mois ? Bon, mais ce n'est pas des questions stupides. Hein. Et les techniciens, est-ce qu'ils sont bien payés ? Tout à coup. Bon, dans une école technique, c'était pas une question vraiment bête. Hein. C'est peut-être pas plus bête que l'autre. Bon.
Il devait aussi s'intéresser, j'imagine, à la fabrication du spectacle. Comment
ça,
fait...
C'était plus ça. Oui. C'est pas comment est-ce que vous faites pour choisir une pièce. C'est comment est-ce que vous faites pour construire le décor, éventuellement. Mais ça existe aussi. Il y a un atelier ici, hein, à 30 mètres. Bon, il faut quand même savoir un peu comment on met une vis. Hein.
Mais on fera un jour une véritable visite du théâtre, si vous voulez, oui, bien, avec vous. Bien une visite radiophonique du théâtre.
Oui.
Mais ça, on le fera dans une prochaine interview. Ma dernière question, j'aimerais qu'on aborde cette fois-ci une autre forme de jeunes ou de nouvelles générations, c'est celle des auteurs. Est-ce qu'il y a un vivier d'auteurs dramatiques belges ou même français ou d'autres langues, mais principalement belges, auxquels vous pensez pouvoir vous adresser?
Ben, on le fait, mais quand on dit jeune, on est plus, je veux dire, dans le même âge de la jeunesse que quand on parlait des spectateurs. Hein. C'est clair que quelqu'un qui écrit des pièces, ben, ça suppose quand même déjà, sauf exception, on parle beaucoup de Rimbaud ces jours-ci, enfin, c'est quand même rare qu'on écrive une première pièce qui est un chef-d'œuvre à 16 ou 17 ans, hein, pas charrié.
Ça veut dire une nouvelle génération de... Oui, par rapport à Giraudoux.
Oui, c'est bien ce que je voulais souligner. Mais il y en a de plus en plus et de qualité. Moi, je reçois quand même pas mal de pièces. Je n'ai malheureusement pas le temps de tout lire. Et puis, ça ne veut pas dire que je pourrais les produire non plus. Donc, je suis obligé de penser aussi au fait que je dois être efficace et que si j'ai le temps de lire deux pièces, faut que je lise deux pièces qui éventuellement pourraient être produites ici. Mais on dirait que tant que je ne les ai pas lues, je ne suis pas sûr qu'elles ne peuvent pas. Bon, mais enfin, il y a des aides. Hein. Quand le magasin d'écriture théâtrale présente ici 10 pièces en lecture qui sont des créations, et généralement de jeunes auteurs et souvent d'auteurs belges, ça fait quand même un peu mon miel, moi. Hein. Bon, je butine en quelque sorte. Et la dernière pièce de cette saison-ci, Garbo n'a plus le sourire, c'est une pièce que j'avais lue d'une auteure, je veux dire, de la jeune génération. Et non seulement je l'ai lue, mais je l'ai entendue en lecture parce que j'ai trouvé qu'il fallait être prudent. J'étais pas sûr. Moi, c'est un humour qui me plaisait beaucoup. Enfin, les parties d'humour, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, loin de là. Bon... me plaisait énormément, mais je suis jamais sûr que ça va passer la rampe. Donc avoir une lecture à plusieurs voix, c'est très important et très utile, évidemment. Ben, c'est pas par hasard que ça se faisait dans tous les grands théâtres jadis. Hein. Ils n'étaient pas tous fous, quand même. Hein. Ils sont morts maintenant, très âgés peut-être, mais ça ne veut pas dire que c'était des andouilles. Hein. Ils savaient ce qu'ils faisaient, quand même.
Yves Larrec, on doit arrêter ici cette première interview. Je dis première parce qu'on a pris rendez-vous pour une visite du théâtre. Et j'aimerais qu'on termine par un conseil que vous donneriez à votre successeur, puisqu'on sait maintenant que vous allez bientôt céder la direction du théâtre à quelqu'un d'autre. Le premier conseil qui vous viendra à l'esprit.
Bon, c'est un conseil qui n'a pas nécessairement quelque chose d'avoir directement avec la fonction, encore que c'est le respect des gens, que ce soit ceux qui travaillent dans la maison ou ceux qui viennent y assister à des spectacles. Je crois que c'est le plus important.
Merci Yves Larrec.
Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le Programme. Les rencontres d'Edmond Morel.